une certaine section de la SAQ, peut-être, mais c'est certain que quand tu regardes les ventes, Patrick, 73 % des ventes de la SAQ sont en succursale, 3 % en ligne, 10,9 % chez des titulaires de permis externes, 4 % chez des agences, puis tu as des grossistes après ça à presque 9 %. Mais dans le fond, quand tu regardes ça, la majorité des ventes de la SAQ se font en point de service de succursale. Maintenant, c'est là qu'il faut que tu dises qu'est-ce que tu veux comme société d'État. Est-ce que tu regardes froidement le produit en disant c'est du vin, comme de l'huile d'olive, comme du vinaigre, puis on met des bouteilles sur des tablettes, puis on fait du commerce de détail, ou on assume son rôle de conseil de produits alcoolisés, puis on commence à changer un peu la rémunération du monde et mettre moins de pression sur le dividende gouvernemental? Là, le problème, c'est qu'on veut jouer sur tous les tableaux. Puis c'est ça l'enjeu.
Mais Pierre-Yves, il doit avoir moyen de pallier un peu à la précarité.
Ben c'est sûr que...
Donner des meilleurs horaires sans faire flamber complètement le bénéfice d'un milliard point cinq.
T'as raison. Il y a sûrement moyen de dire, regarde, il y a des jobs précaires. Si t'en mets deux, trois ensemble, on pourrait donner un poste à quelqu'un. Mm. Puis d'arrêter, puis dire de me mettre peut-être des emplois précaires après ça sur de la clientèle étudiante qui prend acte, qui dit, moi, je vais partir plus tard. Je sais pas ce qu'on peut faire au niveau syndical, au niveau légal. Ce que je peux dire, c'est au niveau du bénéfice et de l'organisation du travail, il y a quelque chose qui fonctionne pas, là. Tu peux pas dire à tes employés, on peut pas en faire plus puis dégager 1,5 milliard de surplus à la fin. Il y a quelque chose là-dedans qui est incohérent.
Mais rassure-moi, tu tiens le coup avec la grève d'aujourd'hui et demain?
Bon, moi, Patrick, j'ai une stratégie d'achat assez surprenante.
OK.
C'est que j'achète sur plusieurs jours. Donc, pour
fait
plusieurs
t'en
jours.
Manque jamais.
Non, je suis pas genre à la SAQ tous les jours, okay, m'acheter ma bouteille à 17$. J'en achète 4-5 bouteilles à la fois. Et t'as raison, là, c'est là l'enjeu. C'est qu'une grève à la SAQ, tu vas pas frapper la clientèle de façon massive tant aussi longtemps que tu fais pas une grève longue. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, je vais finir mes fonds de 41, mes fonds de 20. C'est sûr que les restaurants sont touchés peut-être, mais eux aussi, ils ont une réserve. Donc, t'as raison, au total, c'est pas la grève de deux jours qui est fatigante.
Si t'es dans le trouble, fais-moi ça.
D'accord.
OK, parle-moi de réaction de médecins hier à ta chronique, parce que t'as parlé justement de la hausse du taux d'inclusion des gains de capital, là, qui va passer de 50 à 66 après 250 000 $. Beaucoup de médecins qui ont des INC et ça les affecte.
Oui, parce que, évidemment, l'association au niveau canadien a réagi, au niveau canadien. Mais ce qu'il faut comprendre, les médecins, c'est, je vais le mettre dans leur peau. Revenons dans le passé. Il y a une époque où les médecins partaient un INC, OK, et fractionnaient leur revenu avec leur conjoint-conjointe en disant que le conjoint-conjointe travaille dans l'entreprise et ils pouvaient avoir le meilleur taux d'impôt corporatif. À un moment donné, le gouvernement libéral au Québec est arrivé et a dit, attendez une minute, là. On va arrêter de faire semblant qu'il y a deux à opérer là-dedans. Pour pouvoir avoir le plus petit taux corporatif, va falloir au moins 3 employés, donc 5 500 heures. Mmh. C'est le premier nanane qu'on leur envoie, enlevé. Après ça, Bill Morneau au fédéral a débarqué. Puis il a dit, là, quand vous avez plus que 50 000 de revenus passifs dans un INC, là, on va commencer à vous imposer davantage. Et la semaine dernière, t'as Mme Freeland qui vient dire, là, dans un INC, à partir du premier dollar, vous serez plus imposé sur le gain capital, alors que les particuliers, eux, qui sont chez eux, auront jusqu'à 250 000 avant de voir le taux d'inclusion augmenter. Donc, les médecins se sentent floués pour une raison, c'est qu'ils ont joué à l'époque avec des règles du jeu qui étaient différentes. Et là, ils ont l'impression d'avoir une imposition de leur épargne planifiée, rétroactive. C'est-à-dire que nous, on a placé dans un INC pendant des années, puis là, vous venez nous taxer plus. Avoir su que ce serait de même, on aurait peut-être agi autrement. Je les comprends, mais c'est comme ça pour tous les travailleurs qui ont un INC. Mm-hmm. C'est pas juste eux. Deuxième point intéressant, c'est on m'a parlé beaucoup de la rémunération. On m'a dit, tu sais, Pierre, c'est pas tous les médecins qui font 500 000, c'est sûr. Je parlais au niveau canadien. Tu sais, par exemple, un psychiatre en 2019-2020 au niveau canadien faisait environ 319 000, mais un ophtalmologiste pourrait aller tirer 880 000 selon les données de l'Institut canadien d'information sur la santé. Et donc, c'est sûr qu'en moyenne, c'est pas tous les optimipatriciens. Je vais fatiguer.
Les omnipatriciens.
Patricien, parce que tu t'appelles Patrick, hein? Un omnipatricien. Non, mais un omnipraticien qui fait un salaire très, très élevé, on peut dire 300 000, mais c'est quand même, quand tu as un INC, une possibilité d'optimiser ta fiscalité et de reporter un certain impôt. Maintenant, ce que je leur propose aux médecins qui sont pas d'accord avec le mandat de Mme Freeland, j'ai une solution bien facile. Fermez votre INC. Prenez tout votre revenu annuel de 300, 400, 500, 600 000 et imposez-vous d'une shot comme des salariés. vous allez voir que c'est pas si le fun non plus. Donc, tu sais, il y a pas de gagnant là-dedans. Mais je pense que c'est un point sur lequel M. Poilievre va frapper très fort. Parce que les entrepreneurs, les investisseurs immobiliers, petits ou grands, les médecins, les professionnels, tout le monde qui est frappé par cette mesure-là, qui est pas mal plus que ce que le gouvernement dit, va frapper très fort et crier très fort dans les prochaines élections.
Merci, Pierre-Yves. On se retrouve demain. Valérie Beaudoin est là au retour. On va parler de ces jours d'agitation sur beaucoup de campus universitaires américains.
Consommer encore plus de ces fixes, c'est faisable et c'est facile. Pour consulter toutes nos nouvelles et nous écouter en direct, consultez directement notre site Internet, cfixrimouski.com. Mais ce n'est pas tout. Pour les concours et entrer en contact avec nous, allez sur notre page Facebook, les fans de CFX 93 Rimouski. Pour être informé dès que nous obtenons une information, rendez-vous sur notre compte X, CFX FM 93. Et simplement pour avoir des nouvelles de l'équipe, rendez-vous sur Instagram au CFX FM 93. Qu'est-ce que vous attendez pour nous suivre?
Sensation Plus. Des articles coquins pour pimenter votre quotidien. Découvrez tous nos produits érotiques pour couples dédiés aux amoureux et à la sensualité à deux. Huile, jouets, lingerie et plus. Partagez le plaisir. Sensationplus.com. Livraison rapide et discrète.
Entrez dans l'ambiance chaleureuse du restaurant Union Pacifique de Rimouski. Découvrez une fusion unique de saveurs locales et internationales préparée avec passion par notre équipe de chefs talentueux. Des fruits de mer frais aux steaks savoureux, il y en a pour tous les goûts à l'Union Pacifique. Profitez d'un service attentionné dans un cadre élégant, parfait pour vos repas en famille, entre amis ou pour une soirée romantique. Réservez dès maintenant votre table et laissez-vous emporter par une expérience culinaire inoubliable au restaurant Union Pacifique de Rimouski. UnionPacifique.com.
Rimouski, 93.3.
Voici vos nouvelles du 24 avril 2024. Le député de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé, intervient dans le débat sur le prolongement de l'autoroute 20 vers Rimouski. À l'Assemblée nationale aujourd'hui, M. Bérubé a déposé la motion suivante, invitant les autres parlementaires à se prononcer pour que l'Assemblée nationale affirme que le projet de prolongement de l'autoroute 20 entre Notre-Dame-des-Neiges et Rimouski est essentiel pour assurer la sécurité routière des résidents de l'Est du Québec et pour le développement économique. On demande également à l'Assemblée qu'elle affirme la nécessité de mener ce projet à terme. Présentement à l'étude au sein du Plan québécois des infrastructures, la députée ministre de Rimouski, Maïté Blanchette-Vézina, ajoute que le projet de prolongement de l'autoroute 20 est important pour la région. Il demeure une priorité pour le gouvernement et c'est pourquoi il est inscrit au PQI, a mentionné Mme Blanchette-Vézina. Le préfet de la MRC Rimouski-Neigette, Francis Saint-Pierre, se fait rassurant quant à la situation de la Société de promotion économique de Rimouski, qui a fait l'objet d'une dénonciation à la Commission municipale du Québec. Les directeurs généraux de la MRC Rimouski-Neigette et de la ville de Rimouski ont déposé une dénonciation auprès de la CMQ. La dénonciation fait état précisément, je cite, d'actes potentiellement répréhensibles. La commission va étudier la dénonciation et décider par la suite s'il y aura une enquête. Cependant, la ville et la MRC n'en seront pas avisées. Et c'est maintenant officiel, après plusieurs années de rumeurs, la chaîne québécoise Canac s'installe à Rivière-du-Loup. La presse régionale était conviée hier sur les lieux du futur magasin au 5 rue Léon Bourgoin, dans l'ouest de Rivière-du-Loup. Le directeur de la chaîne, Martin Gamache, en compagnie d'une foule de dignitaires, dont le maire Mario Bastille et le député Bernard Généreux, ont procédé à la levée de la première pelletée de terre. L'investissement se chiffre à 20 millions de dollars. Et enfin, le dossier de Luc Merville, l'ex-chanteur du groupe Roadlock, accusé d'agression sexuelle sur une femme en juin 2000 à Rimouski, s'est poursuivi hier. À la demande de l'avocate de Merville, Anne-Marie Drouin, le juge James Rondeau a accepté de reporter le dossier au 6 juin à la même étape. Merville a plaidé non coupable en février dernier. Il a opté pour un projet devant juge seul. C'était Pierre Michaud pour vos informations.
Réveil Rimouski vous parvient en direct du studio McDonald's du lundi au vendredi de 6h à 10h. CFIX FM 93.
Salut Valérie.
Salut Patrick.
Bon, la guerre à Gaza est un conflit mondialisé, là, pas par l'aspect militaire, mais par l'aspect intellectuel, politique. Il y a des échos un peu partout dans le monde. aux États-Unis, présentement, il y a plusieurs campus qui sont déchirés, disons, par toutes sortes de tensions internes et de l'antisémitisme, etc. Et à l'Université Columbia de New York, il y a un campement et des manifestations pro-Palestine depuis plusieurs jours.
Oui, c'est l'épicentre vraiment de l'Université de Columbia parce que ce mouvement-là a fait des petits. Il commence à avoir des campements dans d'autres universités, des affrontements aussi entre policiers et étudiants, entre autres dans les dernières heures, à Austin, au Texas. Mais on voit ça sur la côte ouest, on voit ça au centre des États-Unis, on voit ça ailleurs dans la région de New York, mais aussi dans d'autres universités comme l'Université Yale. Bref, ce campement-là est un message au campus, aux directions d'université, de dire, mais premièrement, nous on fait pression sur le politique parce qu'on veut un cessez-le-feu. On veut que les États-Unis arrêtent de donner cette aide quasi inconditionnelle à Israël. Mais aussi, ça coûte tellement cher à étudier aux États-Unis. Ils donnent de l'argent par milliers de dollars et ils veulent qu'on coupe toutes les... disons, les investissements des universités, soit dans du développement d'armement, soit dans de l'aide à des groupes qui aident Israël et tout ça. Alors, on veut aussi que l'argent qui est investi ne soit pas de l'argent qui peut aider le gouvernement israélien actuel. Donc, ce campement-là à Columbia, on a eu une négociation pour démanteler une partie, pour garantir, ça je sais pas, je t'avoue comment qu'on va faire ça, que ce soit seulement des étudiants qui sont dans le campement. Et là, il y a de la pression sur la présidente de l'Université de Columbia de démissionner de part et d'autre. Autant des gens qui sont pour le mouvement qu'à l'extérieur du mouvement. Elle a appelé elle-même la police de New York pour venir arrêter des manifestants. Et ça, ça n'a pas passé. Il y a des professeurs aussi qui demandent sa démission. Et comme dans les autres mouvements, dans les universités, il y a des, tu as parlé de discours d'antisémitisme et tout ça, il y a eu aussi des dérives, alors malheureusement, dans quelques campus.
OK. La Maison-Blanche, là-dedans, est-ce qu'elle prend position?
Oui, elle a pris position, mais pas contre le mouvement, en quelque sorte, mais en disant tous ces propos-là qui sont de l'antisémitisme, c'est inacceptable. On a en tête, je pense la Maison-Blanche l'a aussi en tête, là, ce qui s'est passé avec l'université Harvard, entre autres, où il y avait eu aussi des manifestations au tout début du conflit. D'ailleurs, on a montré la porte à plusieurs présidents et présidentes de grandes universités parce qu'ils n'avaient pas agi assez vite quand il y avait des propos comme ça sur le campus. Donc, la Maison-Blanche agit plus rapidement. Mike Johnson, le président de la Chambre des représentants, dans les dernières heures, était sur le campus à Columbia pour dire aux étudiants « Hey, rentrez dans la classe, là. C'est terminé ce campement-là. » Bon, bien sûr, ils n'ont pas écouté Mike Johnson, mais les cours vont être hybrides jusqu'à la fin de l'année à Columbia et peut-être dans d'autres universités tellement les tensions sont vives. Donc, les gens vont pouvoir suivre leurs cours sur le web parce qu'on a trop peur au débordement. Donc, c'est peut-être le début d'un mouvement. C'est la 8e journée, Patrick, aujourd'hui.
Mais il faut dire, tu sais, ces manifestations-là, c'est légitime, mais faut pas chercher bien, bien longtemps, bien souvent, pour trouver des manifestations d'antisémitisme dans ces manifs-là, malheureusement.
Oui, oui. Puis il y a des professeurs, par exemple, juifs, qui ont eu l'accès bloqué à l'école et tout ça. Donc ça, c'est terrible. Il faut le dénoncer. Alors, c'est vraiment... Il y a toujours dans des mouvements aussi des pommes pourrites, hein, parce qu'il y a des gens qui veulent vraiment un processus de paix, mais il y en a d'autres qui ont des discours qu'il faut dénoncer.
OK. L'avortement aux États-Unis, c'est surtout pas une question qui ne regarde que les femmes et leurs médecins. C'est aussi une question éminemment politique, juridique. Là, on a un nouveau dossier d'avortement devant la Cour suprême et ça vient de l'Idaho.
Et je pense la semaine passée, je te disais, je peux parler d'avortement chaque jour. Hein? C'est, oui. Il y a toujours quelque chose. Écoute, c'est incroyable parce qu'en Idaho, on a une interdiction d'avortement. On criminalise carrément l'avortement. La seule exception, c'est vraiment quand la vie de la femme est en danger. Et là, l'administration Biden poursuit l'Idaho en disant, mais attendez, là, il y a une loi au fédéral qui est là depuis 1986 qui dit que si quelqu'un arrive avec un danger pour sa santé, là, t'arrives, même si t'as pas d'argent, tu arrives à l'hôpital parce que bien sûr, il n'y a pas une assurance maladie universelle, tu n'as pas le choix de traiter le patient. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que si une femme a des complications de sa grossesse, elle peut avoir quand même cet avortement-là? En théorie, non, parce que sa vie doit vraiment être menacée. Elle doit pratiquement être au bout de son sang pour décider qu'il y ait cet avortement-là. Alors, on doit déterminer est-ce que cette loi-là est inconstitutionnelle, pardon, en Idaho. Donc, ça peut avoir une répercussion dans les autres États où les lois sont extrêmement sévères. Est-ce que ça va changer l'issue, le dossier de l'avortement? Non. Mais peut-être que ça va forcer certains médecins, certains hôpitaux à pratiquer des procédures sans avoir peur d'être carrément arrêtés par la police.
OK. Toujours dans le domaine de l'avortement, on en a parlé, Valérie, là, en Arizona, La Cour suprême de l'Arizona a décidé de donner la primauté sur en matière d'avortement, une vieille loi qui date de 160 ans. Les républicains l'ont appuyée, même si c'est un petit peu, disons, ancestral comme point de vue. Ben là, politiquement, ils réalisent que ça commence peut-être à leur faire mal.
Oui, et ça faisait deux tentatives où on voulait finalement que la loi n'ait plus lieu.